Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je me suis déjà imaginée dans un lit avec un tube à la place d'un patient, ou voir un de mes proches, dans le coma, intubé. Il y a des moments où les angoisses reprennent.
Les angoisses de soignants, personnel infirmier, médecins qui voient les clusters s'accumuler dans les hôpitaux. Reportage dans un instant. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, toujours bon élève, tellement appliquée qu'elle reste confinée 4 semaines supplémentaires, alors que le virus y circule bien moins qu'en France. Dans ce journal, 3000 emplois, c'est chez Amazon, à tout niveau et pour tout profil, et c'est toujours ça de prix dans la période. Le pape que les évêques français espèrent faire venir à Marseille, invitation lancée, et l'angoisse de la page blanche, visiblement le confinement l'a fait disparaître, les manuscrits pleuvent chez les éditeurs.
Juste après ce journal, c'est contre-intuitif, mais si c'était le bon moment pour créer son entreprise. L'invité de Sonia Mabrouk se veut optimiste et il appelle à saisir les opportunités, à effacer quelques dettes de PME aussi, l'ancien patron de la SNCF, président d'Initiative France, Guillaume Pépi, à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Dieppe, Brest, Arras, Périgueux, La Rochelle ou encore Paris. Toutes ces villes ont un point commun. Elles connaissent des clusters importants au sein même des hôpitaux. Situation qui ne s'était pas produite lors de la première vague.
Ces dernières semaines, le nombre de foyers de contamination est réellement en hausse dans les hôpitaux, comme le montrent les témoignages que Victor Delande a recueillis pour Europe 1 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne.
Je me suis déjà imaginée dans un lit avec un tube à la place d'un patient, ou voir un de mes proches... Dans le coma, intubé. Il y a des moments où les angoisses reprennent.
Comme Magali, aide-soignante, ils sont nombreux à penser au virus, même s'ils ne préfèrent pas trop s'étendre sur la question. Dans son bureau, Geneviève Boyer, cadre de santé en réanimation, ajuste en permanence les plannings pour remplacer les soignants positifs au coronavirus. Et ça génère beaucoup de stress au sein des équipes.
Ils reviennent régulièrement vers nous en nous disant « Vous avez trouvé pour demain, vous avez trouvé pour après-demain ». Ça les inquiète beaucoup, la fatigue faisant.
Car un soignant en moins, c'est forcément du travail en plus pour les autres. Les contaminations se multiplient, mais les explications manquent, selon Antoine Villard-Baron, chef du service réanimation.
Est-ce qu'ils sont contaminés à l'hôpital ? Est-ce qu'ils se contaminent pendant les périodes un peu de détente qui sont obligatoires, ne serait-ce que les pauses ou les déjeuners ? Ou est-ce qu'il y a une contamination dans la sphère privée ? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir.
Un an après le début de la crise, la fatigue se lit sur tous les visages et la peur de la maladie n'est jamais bien loin. Ce virus qui n'épargne personne, pas même les soignants. La semaine dernière, dans ce service, une aide-soignante a été hospitalisée en réanimation.
Victor Delande pour Europe 1. Plus largement, au niveau français, les contaminations sont stables. Elles sont même, en toute l'Europe, en baisse de 16% entre la fin janvier et début février. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est sur une ligne d'optimisme prudent.
Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe.
Il existe, tandis qu'en Allemagne, pourtant confinée, et où il y a en ce moment 3 fois moins de contamination qu'en France, eh bien, la chancelière Angela Merkel annonce la prolongation des restrictions.
De ce fait, une troisième vague va avoir lieu et nous devons déjà la combattre. Entre maintenant et la mi-mars, nous avons une phase où il est vital de faire baisser notre incidence et de rester très prudent.
Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Berlin. Il y a tout de même 2 exceptions. Les coiffeurs vont rouvrir le 1er mars et certains établissements scolaires quand la situation le permettra.
Oui, enfin une perspective, car après 2 mois sans école, beaucoup ont jeté l'éponge, comme Tina qui a préféré emmener ses enfants faire de la luge hier.
La plateforme d'école en ligne est inaccessible depuis ce matin, donc il n'y a pas cours.
Officiellement, les outils numériques permettent de suivre un enseignement pendant 6 à 8 heures par jour. La réalité est bien différente. Chez Sarah, 16 ans, il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille.
Je fais mes devoirs la nuit, à partir de 23h ou minuit, quand tout le monde dort.
Selon une étude, les 3/4 des élèves allemands n'ont aucun contact vidéo avec leur enseignant. Alors comme Marie, beaucoup de parents qui doivent télétravailler en même temps se sentent abandonnés.
Bien sûr que je pourrais passer 12 heures assise avec mon fils à son bureau et l'école à la maison, ce serait fantastique. Mais c'est pas possible, j'ai un emploi. L'aisance avec laquelle il a été décidé que l'enseignement et tout ce que cela implique serait pris en charge par les parents est très choquante à mes yeux.
Pour faire face, le gouvernement allemand leur a accordé 20 jours de congés supplémentaires et une allocation de 150 euros par enfant.
Merci Hélène Cole, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Une annonce dans le journal Le Monde ce matin. Le projet de quatrième terminal à Roissy est abandonné, qualifié d'obsolète par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Il s'agissait d'une extension pouvant accueillir à elle seule plus de passagers que l'aéroport d'Orly.
Une bonne nouvelle, l'annonce par Amazon du recrutement cette année de 3000 personnes en CDI en France. Le président d'Amazon Logistique, Ronan Bollet, est venu le détailler ce matin en direct sur Europe 1.
Des postes évidemment de préparateurs ou de préparatrices en commande sur nos sites logistiques, mais pas seulement. Des postes en maintenance, en ressources humaines et des postes d'encadrement que vous trouvez également sur nos sites et bureaux parisiens.
Tout niveau d'études ?
Tout niveau d'études, encore une fois, ouvert à toutes et à tous. Vous rentrez chez Amazon sur un site logistique en préparateur ou préparatrice de commande et nous allons vous amener au bout de 2 ans vers une rémunération 26% au-dessus du SMIC en vous rendant polyvalent dans ces métiers de la logistique.
Des offres que vous retrouvez sur notre carte interactive sur europe1.fr. Je vous le rappelle, toute cette semaine, notre engagement, la solidarité avec la jeunesse, le hashtag Europe 1 solidaire et cette carte interactive réalisée en partenariat avec Awesome Table et qui nous permet ainsi de recenser toutes ces offres sur le pays. Allez la consulter, allez l'alimenter aussi si vous avez des offres d'emploi à proposer.
Cela fait des années que l'invitation est lancée. Et si le pape François venait en France pour une visite pastorale ? Ce serait à Marseille, c'est en tout cas le souhait de la Conférence des évêques de France qui l'a fait savoir hier, Virginie Riva.
Oui, l'invitation devait initialement rester secrète. C'est l'archevêque de Marseille, Mgr Aveline, qui a écrit une lettre au pape. Lettre qui a été remise en décembre au Saint-Père, en main propre, par les représentants de la Conférence des évêques de France. Pour motiver sa venue, l'archevêque a trouvé l'occasion parfaite. Il le convie à participer à un grand rassemblement de toute la famille jésuite, la congrégation d'origine du pape François, en octobre pour la Toussaint, avec près de 8000 personnes attendues. Et puis, quelques jours plus tard, les évêques de France doivent se rassembler à Lourdes, le pape pourrait donc faire coup double. Du côté de l'Église de France, on nous dit que le pape s'est montré intéressé. Une source française au Vatican nous confie, je le cite, « C'est la première fois qu'on y croit vraiment ». Le numéro 2 du Vatican a même récemment affirmé dans une interview, et c'est une première, « Le pape viendra en France ». Enfin, autre indice, le nonce apostolique, c'est-à-dire le représentant du pape en France, s'est même rendu en septembre dernier plusieurs jours en visite à Marseille, notamment dans les quartiers nord. Certains y voient déjà une forme de repérage.
Virginie Riva, spécialiste religion à Europe 1. À la une aussi, cette succession de témoignages sur les réseaux sociaux dénonçant des violences sexuelles dans les instituts d'études politiques, les Sciences Po, avec ce mot-clé sur Twitter, Sciences Port. On en parlait dans le journal de 7h, dossier complet à retrouver sur Europe 1. Et puis ce gros incendie cette nuit à Paris dans un immeuble d'habitation dans le 11e arrondissement. On compte 2 morts et 4 blessés, dont 2 en urgence absolue.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Notre enquête sur ces centaines de Français qui se sont découverts une vocation d'écrivain à la faveur du confinement. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
On le sait, les Français ont beaucoup lu pendant le premier confinement. Ils se sont précipités sur les librairies ensuite, mais certains en ont aussi profité pour écrire.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Cette crise sanitaire est en train de faire émerger de nouveaux auteurs.
Mais oui, mais écrire, ça demande du temps, et puis une certaine disponibilité d'esprit, et ou un besoin de s'évader. Eh bien Gaëlle Fonlup a 40 ans, elle est magistrate à Montpellier, elle a ressorti de son tiroir le roman qu'elle essayait d'écrire depuis longtemps pendant le premier confinement.
L'écriture, c'est quelque chose que je faisais en dilettante, mais que j'avais jamais entièrement réalisé. Je m'étais toujours arrêtée sur le pas de la porte, en fait. Et le confinement a été pour moi l'occasion de reprendre ce manuscrit, d'aller jusqu'au bout et sauter le pas de la publication.
Oui, parce qu'on écrit, mais il faut aussi publier. Est-ce qu'elle a réussi ?
Mais oui, le roman s'intitule « Elle voulait vivre dans un tableau de Chagall ». C'est aux éditions d'Avalon, c'est disponible. Mais il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus. Alexandrine Duin est directrice éditoriale aux éditions Fayard et Mazarine. Elle a reçu 25% de manuscrits de plus que d'habitude.
À mon retour chez Fayard en mai, comme nombre de mes confrères, mon bureau était enseveli sous une pile d'enveloppes. Pas encore de bonnes surprises, mais bon, c'est chaque fois pour un éditeur toujours l'excitation de découvrir la pépite, une nouvelle voie, le coup de cœur absolu. Quand on le trouve, on sait tout de suite et les choses peuvent aller très vite.
Et c'est allé très vite, par exemple, pour Thomas Louis, 28 ans. Il sera publié à la prochaine rentrée littéraire aux éditions de La Martinière. Donc, au niveau, il a toujours écrit pour lui, mais sans jamais publier. Jusqu'à maintenant, cette période étrange lui a permis de franchir un cap pour terminer le manuscrit en cours.
J'ai pu probablement poser davantage mes idées parce que j'avais l'esprit peut-être plus libre sur ce que j'avais envie d'en faire, sur ce qu'il représentait intimement. Parce que c'est pas le tout premier que j'écris, mais c'est peut-être le premier où je crois autant au fait qu'il puisse être publiable et de fait publié. Donc ce manuscrit-là peut être plus fini, plus abouti que les autres.
28 ans, c'est bien ça, oui. Nicolas, 28
pas
ans.
Mal.
Mais c'est pas le premier que j'écris non plus, ça va. Alors tous ces petits nouveaux qui viennent grossir les rangs des romanciers, Nicolas, est-ce que ça veut dire pour autant que la production de livres va augmenter ?
C'est peu probable. Depuis plusieurs années déjà, les éditeurs essayent de réduire la voilure. Trop de livres dans les librairies, c'est pas bon, puisque trop de romans passent ensuite inaperçus. On restera sans doute autour de 600 pour la rentrée littéraire de septembre et 500 pour janvier. Chez les grandes maisons, on reçoit entre 4 et 6 000 manuscrits par an. Donc, il va falloir faire des choix.
Enquête signée Nicolas Caro, notre spécialiste livre à Europe 1.
Vous parliez de choix, on parle aussi de ce choix de Neymar, qui de lui-même, hier soir, se plaignant d'une douleur aux adducteurs, a quitté le terrain et rejoint les vestiaires en Coupe de France sur la pelouse de Caen. Le PSG s'est qualifié pour les 16e, mais on retient surtout cette incertitude. Neymar pourra-t-il jouer dans 5 jours à Barcelone, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions? Il y a comme une histoire d'épisode de série qu'on a déjà vu, mon cher Mathieu.
Et puis,
on les sait très en avance par rapport à nous sur leur calendrier de vaccination. Les Britanniques ne veulent pas ralentir la cadence. Le service public de santé a mis en ligne cette semaine un clip humoristique pour inciter à la vaccination avec notamment Michael Caine et puis le plus célèbre des chanteurs britanniques.
My name is Elton John.
Plus les gens dans la population seront vaccinés, plus les chances d'éradiquer la pandémie seront grandes. C'est Elton John qui le dit.
Yeah. Qui le chante aussi.
Ça vous donne envie d'aller vous faire vacciner, Mathieu ?
En dansant. En dansant. Et peut-être même en moonwalk, vous voyez. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h13, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour à vous Mathieu et bonjour à tous. Alors si on parlait de création d'entreprise en cette période de crise et si on parlait d'opportunités à saisir et si paradoxalement c'était le moment pour foncer et créer sa boîte, notre invité c'est l'ancien patron de la SNCF, aujourd'hui à la tête d'Initiative France, Guillaume Pépi. Soyez à l'écoute, à tout de suite.
Il est 8h13 sur Europe 1. 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'ancien patron de la SNCF, président d'Initiative France, Guillaume Pépi.
Bienvenue à vous et bonjour Guillaume Pépi.
Bonjour.
Alors on vous connaît, c'est vrai, comme l'ex-patron de la SNCF. Vous avez été de longues années à la tête de la compagnie ferroviaire tricolore. Vous êtes aujourd'hui, comme l'a dit Mathieu, le président d'Initiative France, un tissu d'associations sur tout le territoire avec un mot d'ordre. Vous avez une idée, un projet, eh bien c'est le moment de vous lancer. On va vous accompagner pour créer votre boîte, mais Guillaume Pépi, ceux qui nous écoutent ce matin peuvent se dire qu'en cette période, vous êtes un peu à contre-courant.
Non, c'est exactement l'inverse. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, 2020, on a vraiment une sacrée surprise. Il s'est créé en 2020 plus d'entreprises qu'en 2019, 4% de plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de gens se sont dit, au fond, c'est le moment pour moi, pour vous, pour quelqu'un d'autre, de sauter le pas. On est dans un pays où souvent on se dit... je ne vais pas avoir assez d'argent et je n'ai pas les compétences. Sauf que ce réseau Initiative France, c'est des associations un peu partout en France qui vous aident à vous financer et qui surtout vous accompagnent pendant 5 ans. Et le résultat concret, c'est quand vous travaillez avec nous, vous avez 9 chances sur 10 que 5 ans après, votre entreprise soit toujours là et continue à se développer. Alors que quand vous travaillez tout seul, eh ben, il n'y a que 60% des entreprises qui sont encore là 5 ans après.
Alors on va résumer le processus. Un jeune auditeur qui nous écoute en ce moment, qui a un projet solide, ce réseau d'associations va lui faire un prêt, ce que vous appelez un prêt d'honneur d'environ 10 000 euros, qui va lui permettre d'obtenir un gros prêt à la banque. Et cette même association va accompagner le jeune créateur d'entreprise.
C'est exactement ça. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir une idée en tête. Mais alors l'idée, ça peut être absolument tout et tout et tout. Il y a des gens qui veulent reprendre juste un commerce dans un bourg où ils habitent. Il y a des gens qui veulent créer une start-up. Mm-hmm. Il y a des gens qui veulent transformer leur passion en entreprise. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui adore l'escalade et qui crée un mur d'escalade pour apprendre aux enfants l'escalade. Quelqu'un qui aime la restauration et qui se lance dans un atelier de cuisine, quelqu'un qui veut profiter de la mondialisation des échanges, tout est possible.
Diversité,
tout est possible.
Mais Guillaume Pepy, il a un sacré grain de sable dans tout cela. Votre projet, c'est l'obtention des prêts. Et en cette période de crise, il a été difficile, il faut le reconnaître, pour certains, d'arracher notamment, je pense, aux prêts garantis par l'État. Et maintenant, c'est leur remboursement qui pose problème. Alors dire ce matin, vous allez encore engager un prêt, contracter un prêt, ce n'est pas évident.
Alors, dans quel état sont les chefs d'entreprise, les jeunes qu'on a aidés, hein, on en aide chaque année 20 000 sur tout le territoire à créer leur entreprise. Ben, ils sont partagés. D'un côté, le choc est rude. Hein, il faut survivre avant de rebondir. Certains sont fermés, d'autres ont souffert beaucoup du confinement. Donc c'est vrai que la trésorerie est mise à rude épreuve. Mais, ce qui est incroyable, l'enquête qu'on a menée auprès de 1 000 d'entre eux le révèle, c'est que les 6 interfères, 70% disent je referai, donc il y a une passion. Et puis surtout, il y a énormément d'agilité, c'est-à-dire des gens qui se sont adaptés à la crise. Je pense à un exemple concret, ce jeune qui crée un restaurant, il s'appelle Plouf, le restaurant. Le restaurant ferme. Ensuite, il va vers Deliveroo et Uber, mais ça ne marche pas très bien parce qu'il y a tellement d'offres.
Et, oui.
que, bon. Et puis, il crée un atelier de cuisine, et cet atelier de cuisine en ce moment, c'est un atelier de cuisine à très basse température, donc très bon goût, très longue conservation. Eh bien, ça permet de faire de la restauration dans des hôtels ou dans des entreprises dont les cantines sont fermées.
Donc, il y a de l'agilité et donc, on n'attend pas forcément les aides, qui sont souvent des prêts, il faut le dire, il y a de l'agilité. Mais ce n'est pas tant l'argent que l'on donne, Guillaume Pepy, mais à qui on le donne via votre réseau d'initiatives France. Quels sont vos critères de sélection? Comment vous décelez ce qui peut marcher? C'est ça le plus important.
Alors, d'abord, nous, on fait le pari que ça va marcher. Hein. On est optimiste, c'est un réseau bienveillant.
Oui, mais vous ne dites pas oui à tout le monde.
Non, on ne dit pas oui à tout le monde, mais tout est gratuit. Ça, c'est très important. C'est un réseau d'utilité publique. Donc, c'est un réseau qui est là pour aider et qui n'est pas là pour sélectionner. Ce n'est pas un concours. Maintenant, il ne faut pas qu'on, entre guillemets, qu'on vous plante. C'est-à-dire, si votre projet apparaît pas viable ou si vous-même, on ne sent pas que vous ayez les qualités pour réussir, on va plutôt vous dire, écoutez, revenez plus tard quand vous aurez retravaillé les choses.
En fonction de quels critères, Monsieur Pepy?
Alors, d'abord, Nos prêts, ce n'est pas venu d'en haut, ce n'est pas technocratique. C'est un jury de chefs d'entreprise locaux, c'est-à-dire vous êtes à Thiers, vous êtes à Châteaubriant, vous êtes à Valence. Eh bien, ceux qui vont vous donner un prêt, ce sont vos futurs collègues chefs d'entreprise qui habitent à 500 mètres de chez vous, qui ont une autre entreprise et qui disent « Tiens, ton idée, elle est pas mal. Moi, je pense que ça va marcher et on va te faire confiance et on te donne un prêt. » Ça marche comme ça et c'est comme ça que ça marche bien, c'est-à-dire que c'est ancré dans le territoire.
Et quelle est l'efficacité du dispositif? Prenons l'année 2020, ô combien difficile. Combien de personnes, très concrètement, là, si vous avez un chiffre en tête, venues vous voir avec un vrai projet intéressant? Et surtout, combien d'entreprises ont été effectivement créées?
Alors, 2020, c'est une année très spéciale.
Justement,
parce que non seulement il y a des gens qui sont venus en disant « je vais en quelque sorte profiter de cette année-là pour me lancer ». Là, on peut dire que c'est environ 15 000 projets concrètement partout en France qui ont été acceptés et qui se sont créés. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui avaient créé avec nous leur entreprise il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans, qui sont venus nous voir en disant « Ouille, ça fait mal, aidez-moi ». Et on les a surtout aidés, on les a accompagnés pendant la crise, on les a aidés à se retrouver dans le maquis des aides, parce qu'on a beaucoup de chance en France, il y a beaucoup d'aides en ce moment. L'État, la BPI, les régions, il faut tirer un coup de chapeau. Tous ces gens-là ont été formidables.
Il y a des aides, il y a aussi des prêts qu'il faudra rembourser. Hein. Il faut souvent le préciser pour ces entreprises.
Voilà. Alors maintenant, la vérité, c'est que ce qu'attendent ces jeunes chefs d'entreprise, ce n'est pas qu'on leur prête de l'argent en plus, ou c'est même pas qu'ils ne veulent pas se gaver d'argent public.
C'est ce qu'ils vous disent.
Ils veulent travailler. Ouais, oui. Et donc, leur demande, elle est très claire, c'est de dire, faites-nous confiance. Il faut qu'on puisse avoir des consignes sanitaires qui marchent, pas seulement la fermeture, hein, des précautions sanitaires, mais il faut que la consommation reparte. Et si la consommation repart, notre entreprise repartira et elle pourra donc rembourser les prêts.
Il y a un si, et il est de taille. Avant-hier à ce micro, Guillaume Pepy, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui insistait, je cite, sur l'immense capacité de rebond de l'économie en termes de création d'emplois. Est-ce que vous-même vous misez sur cette reprise de la croissance? Parce que c'est ce si-là, si ça marche.
Oui, moi je crois qu'il a vraiment raison. Fonctionne. Il y a eu des aides massives, mais le rebond de l'économie, la croissance, ça va être encore et toujours la création de nouvelles entreprises. Vous savez, créer sa boîte, dans la vie professionnelle de quelqu'un, c'est probablement la plus belle des aventures professionnelles. C'est vraiment une aventure incroyable. Et la création d'entreprise, ça fait partie des réponses à la crise d'aujourd'hui.
On entend votre éloge.
C'est pas une solution, solution au rabais.
C'est pas une solution au rabais, mais ça peut créer de la précarité. Même si on entend ce matin à ce micro votre volontarisme et votre éloge de la création d'entreprise, ce sont souvent des micro-entreprises et parfois des auto-entrepreneurs avec aussi une précarité qui peut
mais
être.
Pas toujours.
Qui peut
regardez,
suivre.
Blablacar, donc très très connu, hein, on les a aidés il y a plus de 15 ans. On les a aidés dans l'ouest de la France à démarrer. Regardez ce qu'est aujourd'hui Blablacar. D'autres entreprises, il y a parfois des entrepreneurs, je pense à l'un d'entre eux, il est à Châteaubriant, Loire-Atlantique, il a créé une entreprise industrielle. C'est un garçon formidable, qui est très versé dans le digital, il n'avait pas le bac. Aujourd'hui, il a une entreprise de plusieurs centaines de personnes, une entreprise industrielle qui exporte et qui est présente dans plus d'une dizaine de pays. Vous savez, au fond, quand on a une bonne idée en tête, ce qu'on fait nous, on transforme ça en projet. Le projet, il va se transformer en entreprise. L'entreprise, elle va créer des emplois. Alors, ce n'est pas à 100%, mais c'est à 92%.
Oui, c'est-à-dire vous n'avez que pas 92% de baguette magique. Si malheureusement, l'entreprise créée périclite, les soutiens ne peuvent rien y faire, même si vous accompagnez de manière assez permanente l'entreprise.
Ah, vous avez raison. Il faut pas dire à quelqu'un « ça va marcher à 100% » parce que ça dépend des clients. Et donc, simplement, on est là pour accompagner la personne. Vous savez, quand vous créez votre boîte, vous vous dites toujours « si j'ai un contrôle URSSAF, si j'ai un problème de trésorerie, si mon plan d'action commerciale ne marche pas », eh bien là, vous avez un parrain, une marraine, qui vont être à vos côtés pendant des années pour vous aider à réussir.
Si je vous entends ce matin, Guillaume Pépi, président d'Initiative France, on entend qu'il vaut mieux être son propre patron, même à la tête d'une toute petite entreprise, finalement, que salarié aujourd'hui, et surtout dans le monde post-Covid plein d'inconnus. Est-ce que c'est ce que vous dites ?
Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens, vous, moi, d'autres, qui se disent « j'ai une super idée en tête ». Mais j'ai souvent de l'autocensure, j'hésite à me lancer.
Vous
mais
connaissez
les super idées.
La rengaine, parfois c'est l'esprit, parfois c'est ce qu'on dit, c'est l'esprit de la culture française de ne pas se lancer comme
mais
ça.
Mais à Besançon, une femme qui est opticien, pendant le confinement, elle est obligée de fermer sa boutique. Elle est un peu désespérée de fermer sa boutique. Elle a une idée assez géniale. Elle transforme son métier en opticien à domicile, c'est-à-dire qu'elle va dans les villages voir des personnes qui ont souvent du mal à se déplacer. Elle fait le bilan optique, elle les fait choisir les lunettes et elle les livre ensuite. Et elle le fait avec l'appui des
mères. Et ça contribue aussi au lien social, tellement essentiel. En plus,
formidable idée. Et le truc génial, c'est que son chiffre d'affaires en 2020 a été supérieur à celui de 2019. Donc, ce n'était pas une solution au rabais.
Mais Guillaume Pépi, vous avez passé... ce que vous nous dites aussi, c'est, et ce que vous dites probablement aux plus jeunes d'entre nous, c'est qu'on ne passe pas 10 ans, 20 ans dans la même boîte aujourd'hui. Mais vous, par exemple, votre expérience dit presque l'inverse. Vous avez passé plus d'une décennie à la tête de la SNCF. Vous êtes un haut fonctionnaire.
Mais on a créé beaucoup d'entreprises. On a créé des entreprises de covoiturage, on a créé le site voyagesncf.com, on a créé beaucoup, beaucoup d'entreprises. À vrai dire, je pense qu'on n'en a pas créé assez. On aurait dû en créer 10 ou 20 fois plus. Et faire confiance aux salariés, il y a un truc formidable aujourd'hui dans les grandes entreprises, c'est l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la possibilité que l'entreprise vous aide à l'intérieur de l'entreprise à créer vous-même votre propre activité, puis ensuite vous prendrez votre
envol.
Et ce
n'est pas du temps perdu sur l'entreprise à laquelle vous appartenez, au contraire, ce sont des synergies que l'on crée.
Et de la créativité aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, la transition écologique, le digital, plein de choses vont être des occasions, des opportunités de créer des nouvelles boîtes. C'est à nous de le faire maintenant.
Mais alors comment on fait pour créer l'électrochoc dans les têtes ? Est-ce qu'il faut enseigner, je ne sais pas, dès l'école, l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'initiative ?
Dès l'école,
et même les plus petits.
Je pense qu'en France, on a un petit sujet mental et psychologique. C'est-à-dire qu'au fond, si on le dit de façon un peu brusque, créer sa boîte, ça serait au fond moins bien que d'avoir un CDI. C'est faux. C'est une aventure professionnelle extraordinaire. Et puis on se dit, mais je vais être tout seul. Je vais me casser la figure. J'ai pas d'argent. J'ai pas les compétences. Mais c'est l'inverse. Il y a partout des réseaux d'accompagnement qui vont, un, vous prêter de l'argent, et deux, vous accompagner. Initiative France le fait, il y en a d'autres. Nous, en ce moment, on met la priorité sur les quartiers, parce que dans les quartiers, il y a encore plus d'autocensure. Et puis, on met aussi la priorité sur le monde rural et agricole, parce que le passage au bio, c'est l'occasion de créer des nouvelles entreprises, de s'engager pour l'agriculture biologique. Et encore une fois, sur notre site initiative-france.fr, vous trouvez la liste des 215 associations. On a besoin de bénévoles. On a besoin de gens aussi qui vont nous aider à accompagner tous ces jeunes créateurs et qui vont aussi déterminer si on prête, on fait le fameux prêt d'honneur.
Et autant donc de projets concrets. Merci Guillaume Pépi.
Merci
et je
vous.
Rappelle que finalement ce que vous dites rejoint aussi notre initiative à Europe 1, Mathieu, Europe 1 solidaire avec plus de 24 000 offres. Alors une diversité d'offres sur notre site à consulter.
Oui, il faut aller voir cette... Vous allez vous moquer de moi parce que j'arrête pas de le souligner, mais cette carte interactive, vous avez déjà plus de 24 000 offres justement sur Europe1.fr et allez en déposer justement. Alors évidemment, vous cherchez emploi, formation, contrat, allez consulter, mais allez justement enrichir cette carte. Justement, c'est l'objet de cette semaine Europe 1 solidaire. Merci Sonia Mabrouk.
Merci Guillaume Pépi.
Merci.
Bonne journée.
Il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info Hélène Zélani et un nouveau point météo avec Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
L'égalité des chances au cœur de la visite d'Emmanuel Macron ce matin à Nantes. Le chef de l'État veut promouvoir l'accès à la fonction publique pour les étudiants moins favorisés. Finalement, Jean-Rémy Baudot, ce que veut le chef de l'État, c'est de la discrimination positive chez les hauts fonctionnaires.
Oui, une sorte de discrimination positive qui ne dirait pas son nom, car dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on refuse cette expression trop connotée. On n'est pas dans le modèle anglo-saxon avec des quotas ethniques, précise un conseiller. Il faut juste réparer l'ascenseur social, explique-t-on à l'Élysée. Concrètement, Emmanuel Macron va confirmer ce matin la création de 1000 nouvelles places de prépa pour des futurs agents publics, des places à destination d'élèves d'origine modeste, des jeunes qui auront la possibilité d'accéder ensuite aux grandes écoles de l'administration sur des quotas dédiés, 15% d'effectifs en plus. Par exemple, les promos de l'ENA vont être augmentés de 6 places réservées à ces jeunes. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de rajouter une brique dans son édifice de lutte contre les inégalités. Avec le dédoublement des classes de CP, les petits-déj offerts, les dispositifs sont nombreux depuis 2017, mais pas toujours très connus du grand public. L'Élysée promet donc rapidement de nouvelles mesures tangibles, directes pour les citoyens, précise la présidence. À 15 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron compte bien afficher ses mesures sur son bilan et tenter de reconquérir ses électeurs de gauche qui lui ont tourné le dos.
Et à propos de la présidentielle, Jean-Rémy Baudot, elle sera dans tous les esprits ce soir lors du débat sur France 2 entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. La présidente du RN et le ministre de l'Intérieur devraient parler islamisme, immigration et sécurité. Quant à Jean Castex, le Premier ministre est attendu dans une école du 13e arrondissement de Paris avec Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran. Ils vont lancer l'expérimentation des tests salivaires dans les établissements scolaires, car ce sont bien les enfants dans les écoles qui seront les premiers concernés. On attend dans la journée l'avis de la Haute Autorité de santé. C'est une vague de fond qui atteint maintenant les IEP, les instituts d'études politiques, sous le hashtag #ScienceSport. Des milliers de témoignages dénoncent des agressions sexuelles. À Toulouse, une enquête préliminaire est ouverte après une plainte pour viol. À Strasbourg, la direction de l'école a transmis un signalement au parquet, mais après des années de silence. Arthur Elmbaché.
Une étudiante qui accuse un étudiant de viol et la lâcheté de la direction. Voilà résumé par Louise en troisième année, ce qui a secoué Sciences Po Strasbourg l'année dernière. Elle se souvient d'une administration qui ne veut pas se mouiller et qui, dit-elle, confie courageusement aux associations d'étudiants le soin d'ostraciser l'élève accusé de viol.
Lors de cette réunion, on devait décider des mesures qu'on devait prendre vis-à-vis de cet étudiant. On est complètement sorti de notre rôle. On est juste des étudiants parmi tant d'autres et on va prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences pour le présumé coupable. L'administration a exprimé plusieurs fois qu'ils étaient allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et qu'aujourd'hui c'était à nous d'agir. Et ils auraient pu également, pourquoi pas, en parler au procureur de la République. Ce risque-là, ils n'ont pas pris parce que c'est une question de réputation.
La poussière sous le tapis ?
Oui, complètement. Mais de la poussière sous le tapis, le problème c'est qu'aujourd'hui, on le voit, il y en a tellement qu'on ne peut plus la cacher. On ne fait que nous dire qu'on arrive à Sciences Po, vous êtes l'élite de la nation, mais quelle élite ? Quelle élite.
En ce début d'année, une affaire similaire, accusation de viol, secoue à nouveau Sciences Po Strasbourg. La nouvelle direction a cette fois décidé de transmettre un signalement au parquet. C'est bien, nous dit Louise, j'espère que ça va enfin changer. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Amazon embauche. Le géant du commerce en ligne va créer 3000 postes en CDI cette année en France. Renan Bollet, le président d'Amazon Logistique France, a détaillé ses offres ce matin sur Europe 1 à 6h40. Il promet notamment des recrutements de jeunes sans expérience et avec d'intéressantes perspectives de carrière. Rendez-vous sur Europe1.fr pour notre carte interactive des offres d'emploi dans toute la France. Le gouvernement abandonne le projet d'un quatrième terminal à l'aéroport de Roissy. C'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili qu'il annonce au Monde ce matin. Elle estime que le projet est obsolète à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, avec en plus un trafic aérien mis à mal par la crise sanitaire. Vous connaissez le 112, c'est la journée européenne de ce numéro d'urgence qui permet d'être dirigé vers la police, les pompiers ou le SAMU. Les Français n'ont pas l'habitude de l'utiliser et pourtant il fonctionne même sans réseau, téléphone verrouillé et partout en Europe. Jean-Sébastien Soldaini.
En France, le 112, c'est tout sauf un réflexe. En cas d'urgence, ce sont les bons vieux numéros qui viennent immédiatement à l'esprit.
Les pompiers, la police, tout ça, c'est le numéro qu'on voit dans la rue. Les camionnettes, tout ça, on les voit. Et aussi, ils sont plus connus à l'école, on nous sensibilise plus à ces numéros-là qu'au 112 ou d'autres numéros comme ça.
Je vais quand même penser au 18 parce que c'est vrai que quand on était petit, c'était le numéro qu'on nous apprenait en fait.
Le 112, ça vous dit rien ?
Non. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication.
Pas de communication, déficit d'éducation sur ce numéro. Résultat, les Français sont ceux qui utilisent le moins le 112 en Europe. 9% seulement des appels d'urgence l'année passée. Et Benoît Vivier, responsable des affaires publiques pour l'Association européenne du numéro d'urgence, estime que c'est probablement trompeur.
Il y a beaucoup de touristes qui viennent en France et c'est souvent les touristes qui ont le réflexe d'utiliser le 112 parce que c'est le numéro d'urgence qui est commun partout en Europe. Donc si on regardait vraiment seulement les communications qui sont faites par des Français, il serait bien inférieur à ces 9%.
Les pays scandinaves sont comme souvent les bons élèves. 100% des appels d'urgence passent par le 112. La raison est simple, ils ont banni leurs numéros nationaux au profit du seul numéro d'appel européen.
Jean-Sébastien Soldaini. Football, inquiétude pour Neymar au lendemain de la qualification du PSG pour les 16e de finale de la Coupe de France à Caen. Il s'est blessé à un adducteur, blessure dont on connaîtra la gravité dans la journée. Mais ça tombe mal avant le match de mardi contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Deux rencontres restent à jouer ce soir, Sochaux-Saint-Etienne et Angers-Rennes. Sachez aussi que Nantes confirme le limogeage de Raymond Domenech et l'arrivée d'Antoine Comboiré pour donner un nouvel élan au club et éviter la relégation. Le nouvel entraîneur des Canaries sera présenté en fin de matinée.
Merci Hélène Zélani. 8h36, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et la neige d'hier est scotchée sur nos routes et le verglas, maintenant c'est le roi de la circulation, si je puis dire. C'est lui qui empêche vraiment les voitures, les camions de circuler correctement. Le ciel, si on regarde le ciel, il est souvent dégagé, et ce sur une grande moitié est de la France. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'intempéries ou très peu. Et nous avons des brouillards sur la vallée de la Garonne. Nous aurons un ciel voilé sur la basse Normandie, la vallée de la Loire, le Limousin et le Midi Pyrénées. Un ciel le plus souvent dégagé sur toute la partie est de la France. Si vous habitez le Berry, l'Auvergne et la région parisienne, du soleil ce matin, puis ensuite des brumes. Côté Atlantique, alors maintenant, ça c'est le côté disons un peu moins souriant hein, dans la mesure où la perturbation arrive. Il neige déjà du côté de Quimper et puis sur la Loire-Atlantique, nous aurons aussi un petit peu de neige, de la pluie sur la Vendée, les Charentes-Maritimes, la Gironde et les Landes. Voilà pour la couleur du ciel. Les côtes atlantiques seront donc très concernées par le mauvais temps dans le courant de l'après-midi. C'est pas une journée géniale, c'est une journée d'hiver, surtout avec des températures qui sont dantesques hein, ce matin. Et je répète encore, parce que les valeurs sont encore les mêmes. Hein. À Orléans, qui a été la ville la plus froide et qui le reste encore, moins 17 degrés en tenant compte du vent. Ressenti moins 14 à Strasbourg, moins 12 à Roissy, moins 11 à Orly, moins 10 à Deauville et Lille, moins 9 à Langres, moins 7 à Poitiers, moins 5 à Lyon. Vous voyez que les températures ont plongé.
J'ai froid rien qu'à vous écouter.
Demain, vous aurez encore plus froid. Donc, mettez une doudoune de plus pour m'écouter. Il fera encore plus froid. Donc, voilà, dans un mot, les températures maximales, là, sont plus raisonnable, entre moins 2 et plus 5 degrés sur la plupart des régions.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, la colère des jeunes, comment l'exprimer ? Il faut l'exprimer cette colère, nous dira Jimmy Mohamed, notre santé. Et puis cette drôle d'initiative, la candidature d'une petite ville finlandaise pour accueillir les Jeux Olympiques d'été.
Lämpö tulee.
Kiitos ilmastonmuutokselle. Mä lumi tuolla, niin se tulee olemaan hiekkaa sitten silloin.
Et oui, c'est du finnois. Un coup de com' pour dénoncer le réchauffement climatique. On en parle, notre planète. Fanny Agostini, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h40 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment ça va Jimmy ?
Bah écoutez, ça va pas trop mal.
Ouais, ça va ? Parce qu'il faut l'exprimer, oui. Votre colère, hein, si ça va pas. Ça, c'est ce que vous allez nous expliquer. Tiens, je voulais vous proposer cette petite archive qui commence à dater un peu. On est en 2007, vous allez reconnaître les voix.
Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère.
Est-ce que je peux répondre ?
Vous permettez, il y a des colères très saines et très utiles.
Vous vous rappelez de la colère saine de Ségolène Royal, le débat face à Nicolas Sarkozy ?
C'était particulier.
Alors, toute cette semaine, on est auprès des jeunes, évidemment, on l'a beaucoup dit sur Europe 1, et ces jeunes parfois en colère, vous dites cette colère peut être saine, vous nous expliquez ce matin qu'il faut pouvoir l'exprimer.
Oui, c'est vrai qu'on vit dans une société où il est préférable de ne pas montrer ses sentiments, notamment la colère, mais n'importe quel sentiment. Or, on a tendance à croire que la colère est une émotion qui ne devrait pas exister, ou en tout cas qu'on ne devrait pas exprimer. Sauf que cette colère, c'est une réaction normale, elle est saine face à une injustice, un échec ou même une frustration. Et d'ailleurs, quand on est enfant, nos parents nous apprennent à l'apprivoiser et parfois même à la réfréner. Sauf que cette colère, c'est un réflexe de défense et cette énergie, elle ne doit pas être refoulée. Le fait de reconnaître une situation comme intolérable va nous pousser à rechercher des stratégies, notamment pour y mettre fin.
Et comment on fait en pratique, hein, dans la vie de tous les jours, pour l'exprimer ?
Alors évidemment, je vous parle de la colère positive, hein, et ponctuelle, pas celle qui va s'accompagner d'agressivité. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est en parler à un proche, à un ami, et de la verbaliser. Si c'est trop compliqué pour vous, car certains sont pudiques et ne veulent pas parler de cette colère, eh bien vous pouvez l'écrire. L'écrire à la manière d'un journal intime. Souvenez-vous Mathieu, au collège en 4e B, quand Julie ne voulait pas de vous, eh bien si vous aviez écrit cet échec, peut-être que vous l'auriez mieux digéré. Donc l'écriture peut vous aider
justement.
Vous parlez
de moi, Julie, que celle qui vient de s'installer juste à côté de moi.
Évidemment, évidemment, toute ressemblance, exactement. Alors, si jamais l'écriture vous pose problème, n'hésitez pas, ça paraît tout bête, mais à choisir une couleur tous les jours pour exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être le rose quand vous êtes de bonne humeur, ça peut être le rouge quand vous êtes énervé, mais le simple fait de la choisir va faire que vous allez la verbaliser dans votre cerveau. Vous pouvez aussi utiliser cette énergie, notamment avant d'aller faire un peu de sport, avant de courir. D'ailleurs, une étude anglaise montre que l'idéal serait de s'énerver, voire même de marmonner quelques insultes avant un effort physique. Évidemment, n'ayez personne dans votre entourage. Et puis, dernière chose, pour ceux qui sont en couple, alors vous allez dire c'est contre-intuitif, mais dites aux gens, à la personne avec qui vous êtes, ce qui ne va pas. Les études montrent que la politique de l'autruche n'est pas bonne pour la relation et que les couples qui se disputent ont 10 fois plus de chances de vivre une relation heureuse que les autres. Alors évidemment, les disputes, c'est avec modération, car sinon, forcément, vous allez m'en vouloir et vous aurez bien raison.
Tout est dit. Tout est dit. J'allais vous envoyer justement les couples qui finissent. Mais vous l'avez précisé, tout va bien. Tiens, un autre couple, celui que vous formez avec Mélanie Gomez pour présenter Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h sur Europe 1. On va parler hygiène bucco-dentaire aujourd'hui avec un chirurgien dentiste. C'est peut-être celui de vos confrères qu'on apprécie le moins, hein, le chirurgien dentiste, Jimmy.
Non, mais elle est super cool. Elle est pédodentiste, elle s'occupe des enfants, c'est une magicienne et elle va vous apprendre plein de trucs. Soyez au rendez-vous.
On sera au rendez-vous sans rendez-vous. C'est dur, mais voilà, c'est de 15h à 16h sur Europe 1. Merci, Jimmy. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète. Une ville vient de lancer une candidature atypique aux Jeux Olympiques d'été de 2032.
Oui, c'est la ville de Sala, qui est située en Laponie, une ville qui est réputée comme étant l'endroit le plus froid de Finlande, qui a publié une vidéo dernièrement annonçant sa candidature au JO d'été 2032. Candidature ironique, puisque cette commune de 3400 habitants passe la moitié de l'année sous la neige. Dans cette vidéo, on voit des citoyens de Sala déguisés en athlètes, légèrement vêtus, pratiquer des disciplines des JO d'été dans un fond de blizzard, de lacs givrés et d'étendues de neige à perte de vue. Le tournage est donc à moitié une blague, vous l'avez compris, c'est une fausse candidature qui vise en réalité à alarmer le public sur les risques climatiques encourus par des villes comme Sala qui fonctionnent dans des écosystèmes hivernaux.
Fanny, pourquoi est-ce que la maire de Sala a choisi la date des Jeux Olympiques de 2032 ?
Eh bien, pour nous alerter sur le fait que nous serons contemporains de ces grands bouleversements. Tout va très vite, trop vite. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévient que les températures globales auront déjà augmenté d'1,5 degré aux alentours de 2030. Du coup, l'objectif de l'accord de Paris, je vous le dis tout de suite, c'est mort, c'est foutu, c'est déjà hors de portée. Derrière ce clip de fausse candidature au JO, Sala utilise donc l'échéance 2032 pour dire que, vu l'inertie du réchauffement climatique, d'ici là, toute la glace aura fondu pour accueillir les JO d'été.
Alors ce n'est pas la première fois qu'une ville ou qu'un gouvernement fait preuve d'originalité pour mettre en avant l'urgence du changement climatique.
Ben oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà en 2009, le gouvernement des Maldives avait tenu son conseil
ah oui,
des ministres
vrai.
Sous l'eau. Oui, vous vous souvenez de la photo avec les membres du gouvernement équipés de masques et de bouteilles de plongée. Oui, pour dénoncer l'inaction face à la montée des eaux qui menace les archipels du Pacifique. Et en 2019, il y a eu aussi une marche funèbre qui a été organisée en Suisse pour pleurer le glacier Pisol, fondu par le réchauffement climatique. Et quant à la Laponie, les habitants remarquent déjà des hivers de plus en plus courts, des lacs qui habituellement étaient glacés, qui commence à fondre. L'équilibre actuel des écosystèmes froids est déstabilisé avec des conséquences sur l'accès à la nourriture pour notamment les rennes. Et avec eux, c'est la population des Samis, ce peuple de 80 000 personnes dont la culture repose sur l'élevage de rennes qui est menacée. Car finalement, Mathieu, c'est bien ça l'enjeu. Le réchauffement climatique a des conséquences. Attendez, laissez-moi finir la fin.
Pardonnez-moi. Non, mais j'étais d'accord avec vous. C'est ça l'enjeu, ces espèces menacées.
Mais non, parce que je vous parle de la Laponie à l'autre bout, au niveau du cercle polaire. Mais les conséquences, elles sont induites par l'homme. L'activité humaine est là comme point de départ avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et systématiquement, c'est la vie humaine qui est là comme dommage collatéral. Donc on a vraiment un effet boomerang sur les populations humaines.
C'est bon ?
Là, bon.
Je plaisante Fanny Agostini,
bon.
Merci beaucoup.
Non, à demain.
Il fallait aller au bout de cela, évidemment. Notre planète, c'est tous les matins avec Fanny et c'est en direct sur Europe 1. Il est 8h46.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent. La revue de presque.
8h48 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité.
Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre. Europe 1 degré. Oui, comme on est en boucle sur
degré,
le froid dans les médias, on a rebaptisé, chère Julie, la station Europe 1 degré. 1 degré, voilà. Mais justement, essayons de parler d'autre chose que de la météo ce matin. L'info du jour, c'est la mort de Larry Flynt, nous l'avons dit, le roi du porno, fondateur du magazine Hustler et fervent défenseur de la liberté d'expression. On se souvient de ces procès très médiatiques sur le sujet, notamment celui où, attaqué par les ligues de vertu américaines, il s'était présenté au tribunal en slip, vous en souvenez ?
Et...
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Dominique Lormanski. Écoutez, je voulais rendre hommage à Larry Flynt. Ah, Larry Flynt. C'est vrai, vous avez raison, une page se tourne. Une page collée.
Oh non, oh là là.
Je vous rappelle
les souvenirs, non, s'il vous plaît. Oh non, Dominique, allons.
On fait les souvenirs, monsieur Béliard, lorsque vous étiez en 4e B, à mon avis, consultiez le docteur Votimio-Maître. Vous savez, ce matin, celui qui vous parle, ce n'est pas l'amateur de films documentaires sur l'épilation intime, non. C'est le défenseur. Le défenseur de la liberté d'expression.
Ils sont fous, hein.
Un jour, j'étais au Sofitel New York, j'essayais d'exprimer mon point de vue auprès d'une femme de chambre. Mais vous savez, la société américaine est très pudibonde. Dès que vous avez une opinion qui dépasse, et là, je sais que j'avais plutôt une opinion qui dépassait légèrement, eh bien, moi aussi, on m'a envoyé au tribunal.
Il est fébrile.
Et au niveau argumentaire, je suis allé au tribunal, croyez-moi, en slip. À vous, ma chère Julie. Non, c'est moi. Oui, merci. Allez, on change de sujet. Allez, l'autre info, c'est le pape. Le pape qui pourrait, nous l'avons dit dans l'édition du matin, venir à Marseille en octobre. Pourquoi pas le pape à Marseille ? D'accord, il est plutôt jeune, mais il ne peut pas faire pire que les joueurs actuels. Allez, à vous, Juif.
Ah, cette fois-ci, oui. Merci, Mathieu. D'après le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il existe un chemin, une voie, pour éviter le reconfinement. Jean Castex, bonjour, monsieur le Premier ministre. Vous nous confirmez que c'est le cas ?
Bonjour, madame Julie.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Bonjour, monsieur Béliard.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Bonjour, papi et mamie, et 12. Allez, les pompes 21.
Non, mais attendez, pardon, monsieur. Non, monsieur Castex, pardon, mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que vous faites ?
Je me muscle. Vous avez vu Olivier Véran, comment il est dessiné, le garçon. C'est un Apollon. Alors, pour ne pas avoir honte, quand j'irai me faire vacciner, je suis en train de suivre le programme de mon coach Finesse. Voilà. Oui, j'ai mis mon shaker de protéines. Ah, le voici. Dites pourquoi j'ai mes lunettes qui sont dans la poudre.
Oh, les lunettes. Alors. Oui, bon, mais au sujet du reconfinement, M. Castex.
Alors. Ma séance, je vous écoute. Oui.
Allez-y, parlez-nous reconfinement ou pas.
Oui, alors, il faut avoir bien conscience que nous sommes sur un équilibre fragile. Mm. Et la situation, nous le savons, peut basculer à tout moment. La catastrophe peut arriver même demain.
Oui, oui.
Et dans 2 heures, tout peut basculer. On n'est pas à l'abri d'un désastre dont le pays ne pourra pas se relever. Alors, que faire ? Nous avons une réponse imparable. Que faire ? Rien. Oui, mais vous souriez, mais en ne faisant rien, c'est là qu'on a le moins de chances de se tromper. Voilà. En plus, on connaît la musique. Si on reconfine, les gens seront mécontents et tout le tralala.
Ouais, mais c'est risqué aussi comme stratégie, hein, l'attentisme. Et si ça ne marche pas, alors ?
Et si ça ne marche pas, eh bien, les gens seront mécontents, mais plus tard. Au moins, on aura gagné quelques jours hein, sans se faire cracher dessus. Bon, écoutez, voilà, assez digressé. Je vous laisse, je dois entamer les exercices pour les pectoraux. Allez,
oh là pectoraux. Là, bon courage. Allez, hop, c'est parti.
Développé couché et un, et deux.
Allez, c'est bon, monsieur Castex, on va pas... Non, non, on va pas assister au cours. Non, 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 c'est bon. Allez, on est maintenant en ligne avec c'est... Patrick Balkany. Tiens, 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 bonjour, monsieur Balkany.
Oui, bonjour, Mme Julie, bonjour, monsieur Béliard. Comment allez-vous?
Ça va,
quel
hein.
plaisir de vous entendre. Excusez-moi, je suis en plein tennis à la Villa Pamplemousse. Je crois que vous êtes amateur de tennis. Ça fait 3 heures que j'y joue, c'est un régal par un temps pareil.
Alors, monsieur Balkany, vous êtes mis en examen pour prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux dans une affaire d'utilisation frauduleuse de locaux. Et ça pourrait vous renvoyer en prison, figurez-vous.
Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, non, à mon dos. Ah, mon Dieu, j'ai mal. Mais si moi, je suis cloué au lit, pourquoi cet acharnement? Isabelle, Isabelle, t'as pas envie de te suicider par hasard?
Patrick, qu'est-ce que tu racontes? C'est qui au téléphone, là? Arrête ton cirque et joue, là. C'est à toi de servir, on m'en est à 5 jeux à 4. Je te rappelle, 30-0.
Oui, bon, il faut que je vous laisse, Mme Julie, je suis en pleine rééducation avec les kinés à l'hôpital. Allez,
c'est
à bientôt.
Eh bien, merci à tous les deux. On va voir quelle analyse politique on peut faire de cette affaire, cette nouvelle affaire Balkany, avec notre collègue Jean-Michel Apathy.
Et bonjour Julie, bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Eh bien franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien dans un monde chamboulé, dans un univers d'incertitude où le Covid a détruit tous nos repères, il faut bien le dire, où on ne sait plus de quoi sera fait le lendemain. Franchement, franchement, c'est agréable de voir que certaines choses ne changent pas. Un Balkany mis en examen pour des magouilles, c'est rassurant, qu'on le veuille ou non. Un Balkany au tribunal, c'est un phare dans la nuit, quelque part. Hein, pour moi, ça vaut un resto ouvert, carrément. Et croyez-moi, en cette période, c'est primordial, car les Français ne croient plus en rien, rien, rien.
Et voilà le mot de la fin, on l'attendait. Merci, Jean-Michel Apathy. Oh là là, c'est Jean Castex qui continue ses exercices. Le Parti Socialiste pourra-t-il financer la campagne de son futur candidat à la présidentielle de 2022? Le PS fait face à une lourde crise financière depuis 10 ans, d'après un rapport confidentiel remis à la direction du parti et que l'hebdomadaire Le Point s'est procuré.
Hey, ça ne m'étonne pas. Depuis 10 ans, il a toujours été... mal géré, ce parti, c'est un bazar, un bordel là-dedans. Bonjour Madame Julie, pardon.
Bonjour Monsieur Hollande. Alors, hey. D'après ce rapport, les ennuis du parti commencent en 2010. Vous en quittez la direction en 2008, vous.
Oui, voilà. De mon temps, c'était administré convenablement. Et après avoir dirigé un parti d'une main de maître, d'ailleurs, à ce titre, je m'étais dit, pourquoi pas la France? Avec le succès que l'on sait. Et je ne pouvais pas être partout, là, forcément. Le PS ne s'en est jamais relevé.
Ah. Oh, mais, non, mais attendez. Oh, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais j'entends des choses hallucinantes.
Bonjour, Ségolène Royal. Bah oui, le PS pourrait ne pas pouvoir présenter de candidat à la prochaine présidentielle, faute d'argent.
Non, mais écoutez, non, mais ça ne m'arrange pas du tout.
Ah, bah, ça,
ça
vraiment.
Non, mais attendez, non, mais comment je vais faire, moi? Que je vous dis en toute confidentialité, je caressais l'idée de me présenter.
Ah, bah, vous pouvez toujours monter un mouvement, je sais pas, moi.
Oui, mais franchement, je préfère que ce soit le PS qui paye.
Ah, hein, oui.
Vous savez, en tant que socialiste, on préfère quand même dépenser l'argent des autres. Hein, mais là, ma candidature, je ne sais pas si je vais pouvoir.
Ah, bah là...
Vous voyez, Mme Julie, on en fait tout un pataquès, mais que le PS soit ruiné, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien.
Oh, écoutez-le. Merci, Monsieur Hollande. Allez, un mot de cette info qui interpelle. Hein. Dans le journal Le Monde, les prix de l'immobilier fléchissent à Paris. On va en parler tout de suite avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Oui, bonjour. Bonjour, Mme Julie.
Oui.
C'est la reine des neiges.
La reine des neiges?
Oui, rapport à la météo. Vous l'entendez? La reine des neiges.
La reine...
Vous entendez le bruit de l'appel?
Oui.
Oui, c'est un bruit sourd. C'est pas très radiophonique.
Non, c'est le bruit de la neige.
Quand je dis la reine des neiges, du verbe déneiger, bien sûr.
Ah, enlever la neige. Neiges. Ah.
Donc je signale à vos auditeurs, c'est une blague.
Ah. Non, mais c'est vrai que Paris est sous la neige en ce moment. Hein.
Oui, une fois de plus, Paris innove. Vous l'avez compris, on est toujours à la pointe. Après Paris plage, Paris vous propose Paris montagne ou Paris neige, au choix. Plus besoin de courir, de partir à Courchevel, à Avoria ou à Saint-Germain. La Manisère, Gratigny aussi. La Pagne. Ou de toute façon, vous ne pouvez de toute façon pas faire de ski. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai pris une boule de neige dans la bouche. D'où mon articulation un peu approximative. Voilà. Paris vous offre la même absence de loisirs que la montagne. Autant s'épargner 600 km.
Alors revenons sur
de
cette.
Qui plus est, en voiture.
Revenons sur cette baisse du prix de l'immobilier dans la capitale.
Oui, quelle bonne nouvelle. Franchement, ah Paris bon était déjà chic et bon marché. Maintenant, elle devient encore plus accessible.
Paris n'a jamais été bon marché. Jamais. Et la raison de la baisse des prix, c'est que les Parisiens s'en vont. Il y aurait un désamour pour Paris. On a tous des exemples d'amis qui partent vivre à Bordeaux, à Biarritz, à Montpellier.
Oui, oui, tout à fait. Ils ont quitté la capitale pour s'éloigner, effectivement, vous avez raison de le souligner, Bordeaux, Biarritz, Montpellier, pour s'éloigner de quelques kilomètres. C'est ce qu'on appelle le Grand Paris. C'est même le très, très grand Paris.
Le très, très grand Paris.
Le très, très grand Paris. C'était pas prévu. C'est un petit cadeau de Paris.
La reine des neiges.
La vanne déneigée, c'est le verbe, pas la reine des neiges, la vraie.
Et comme ça, on est sûr que vous l'aurez dans la tête toute la journée. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr. Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, la matinée continue sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.